Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Lorsqu'il était sur terre, le Christ s'est exprimé en parabole à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous pouvons puiser bien des enseignements de ces paraboles que le Christ a tirés de la vie quotidienne de son époque. Mais pourquoi s'exprima-t-il ainsi? Les paraboles étaient chose courante en Palestine. L'Ancien Testament lui-même en compte assez bien. Le prophète Nathan s'est servi d'une parabole pour faire comprendre au roi David qu'il avait péché et à quel point il avait été odieux. Il lui décrivit l'histoire de deux hommes, l'un pauvre, ne possédant qu'une seule brebis, et l'autre riche, possédant des brebis et des bœufs en très grand nombre, et qui, malgré ses richesses, s'empara de la brebis du pauvre. Au 5e chapitre du livre d'Ésaïe, nous trouvons une autre parabole qui est un message important pour la maison d'Israël et les hommes de Juda. Le prophète Ézéchiel dut également s'exprimer en parabole. « Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Il raconta ensuite l'histoire d'un aigle et d'un cèdre. Plus loin, dans le même chapitre, le prophète expliqua la signification de cette parabole étonnante. Le Christ adressait ses paraboles à un public composé non seulement de disciples, mais aussi d'une foule aux sentiments mitigés, sans oublier les scribes et les pharisiens qui lui étaient de plus en plus hostiles. Dans la plupart des cas, les paraboles étaient tirées de la vie de tous les jours. Elles décrivaient une image familière. Mais pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Était-ce encore une façon courante de s'exprimer à l'époque? Oui. Les paraboles stimulaient la mémoire. Cependant, le Christ donnait souvent une explication complémentaire qu'il ne proposait pas à la plupart des gens. Lisons ce qu'il dit à ses disciples. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Jésus déclara ouvertement que ceux qui écoutaient ces paraboles n'étaient pas prêts à recevoir les vérités profondes du royaume de Dieu. Seuls ses 12 disciples l'étaient. Voilà la raison pour laquelle il parlait parfois en parabole, pour qu'on ne puisse pas comprendre, mais plus tard, en privé, il livrait à ses disciples l'explication de celle-ci. Lorsque la foule entendait les paraboles, elle n'en saisissait aucune signification spirituelle particulière. Elle n'en comprenait que le côté physique, le côté spirituel lui échappait. Et le Christ d'ajouter, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Jésus savait que ces gens n'étaient pas prêts à recevoir les vérités profondes, et il les cachait donc sous forme de parabole, pour qu'ils ne soient pas responsables de cette connaissance. Car il est écrit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. » La Bible en français courant a traduit ce verset comme suit. Ainsi, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et ne fait pas, se rend coupable de péché. Aux pharisiens qui lui demandaient, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. La vérité est trop précieuse que pour être étalée sans discernement au hasard. Dieu ne la révèle pas à tout le monde. Si les gens ne sont pas prêts à comprendre la vérité, Dieu la leur révélera plus tard. Le Christ a enseigné un principe important. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchire. Jésus ne dit nullement que les gens sont des chiens ou des pourceaux, mais il explique la réaction de certains face à la vérité. Trop nombreux sont ceux qui, confrontés aux vérités contenues dans la parole de Dieu, les méprisent, les dédaignent et persécutent ceux qui les leur livrent. C'est la raison pour laquelle le Christ avait mis en garde les disciples qu'il envoyait dans toutes les villes en disant « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'allez pas de maison en maison. » C'est par les bonnes œuvres que l'on peut convaincre les gens. Le Christ a déclaré « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, si vos bonnes œuvres se réduisent à rien, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Autrement dit, plus les bonnes œuvres seront importantes, plus elles seront remarquées. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau était une mesure en bois, semblable à un tonnelet. Mais on la met sur le chandelier. Et à l'époque, le chandelier était un support prévu pour poser ou suspendre la lampe à huile. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Remarquez bien ce que Jésus a dit. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais il n'a pas dit « afin qu'ils entendent vos bons arguments ». Jésus a déclaré « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Ceci explique pourquoi le Christ parlait en parabole. Tous les arguments que l'on peut développer pour amener quelqu'un à la vérité ne servent à rien. Pourquoi? Le Christ a déclaré « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ainsi, quiconque a entendu le Père, autrement dit l'appel du Père, et a reçu son enseignement, vient à moi. Il a ajouté, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Père appelle, il attire le chrétien vers le Christ qui, à son tour, révèle le Père. Voilà pourquoi il est écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jésus expliquait les paraboles à ses disciples en privé. Toutes celles-ci n'étaient pas pour la foule qui le suivait. Certaines étaient destinées aux disciples, d'autres aux chefs religieux qui comprenaient ce qu'ils disaient. Jésus devait parler en parabole. Cela avait été prophétisé. L'apôtre Matthieu rapporte. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Le prophète dont il est question dans ce passage est Asaph, un lévite, un des chefs des chantres responsables de la musique et du chant sacré au temps du roi David. Asaph avait écrit « J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. » Ici, le mot original pour « sentence » est le même mot que pour « parabole » dans Ézéchiel 17, et qui a le sens d'analogie, de comparaison, comme le Christ le fait dans ses paraboles. C'est différent d'une énigme. Matthieu raconte, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait près du rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. » Jésus avait grandi à Nazareth et plus tard, il avait vécu dans la ville de Capernaum, au bord de la mer de Galilée. C'est de là qu'il donna les paraboles que vous pouvez lire dans le 13e chapitre de l'évangile de Matthieu et qui se rapportent au royaume de Dieu. L'apôtre Marc rapporte, « Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors qu'il se trouvait en privé avec ses disciples, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Il est donc essentiel de bien comprendre le message qui nous est donné dans chacune de ces paraboles. » La semence tombe sur 4 types de sols différents. Ces sols représentent différentes catégories de personnes qui entendent la parole de Dieu et réagissent d'une façon particulière. On ne dit pas qui est le semeur, mais il sème la parole. La semence représente l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume. Les gens de la première catégorie entendent le message, mais sans aucun délai, ils sont dissuadés d'agir favorablement. La vérité ne prend donc pas racine en eux. Ils sont des proies faciles pour le diable, qui les convainc de ne pas s'attarder sur ce qu'ils ont entendu. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Satan arrive à ses fins de différentes façons. Une remarque offensante, une moquerie, de la part de quelqu'un qui dit en connaître beaucoup plus. Un manque de temps pour approfondir ce qui a été entendu, et tant d'autres façons encore. Mais le résultat est toujours le même. La personne rejette l'évangile du royaume avant que le message ne puisse prendre racine en elle. Ceux qui se situent dans le second groupe la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Les racines étaient trop fragiles et dès la première difficulté, dès que quelqu'un les ridiculise, les tourne en dérision, ou dès que la moindre difficulté survient, ils abandonnent. Ces personnes veulent obéir à Dieu à condition que ce soit facile. Que dit le Christ des gens du troisième groupe? D'autres soifent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Ces gens progressent un peu plus. Ils commencent par obéir à Dieu. Ils surmontent les premières difficultés, mais malheureusement, le matérialisme, les richesses ou d'autres convoitises du monde l'emportent et les éloignent de Dieu. Beaucoup de choses peuvent les éloigner de l'appel que Dieu leur a adressé. Un travail, un conjoint, et tant de choses. Qu'en est-il de la dernière catégorie? D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Ces personnes sont converties. Elles croissent dans la foi et dans la connaissance. Elles exhibent les qualités du fruit de l'esprit. Mais toutes n'ont pas la même vitesse de croissance. Certaines sont plus rapides ou plus productives que d'autres, bien que le véritable chrétien doive acquérir toutes les qualités du fruit de l'esprit. Ceux qui sont proches du Christ portent le plus de fruits. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, où vous situez-vous? Je continuerai ce sujet la semaine prochaine.